Chapitre 130. Le roi attend. Le rendez-vous, comme nous l'avons dit, était au bois de Boulogne. Hélas, tout s'en va. Encore un de nos bons souvenirs de jeunesse disparus. Encore un bois habité au lieu d'un bois désert. Et quand nos neveux verront ce parc anglais, ciré, frotté, épinglé, luisant, verni comme un tableau d'exposition commandé par un bourgeois, ils ne voudront jamais croire aux anciennes descriptions que nous avons faites du débris de cette vieille forêt de Louvois, que ce roi pillard qu'on appelait François Ier avait fait entourer de murailles pour y prendre plus commodément le plaisir de la chasse. Ils ne comprendront pas non plus qu'il fut un temps où c'était là qu'étant sûr de ne rencontrer personne, on se donnait rendez-vous pour se battre, et cela si naturellement que les témoins de l'homme qui recevait les conditions de son adversaire eussent cru ceux-ci fous ou de mauvaise compagnie s'ils eussent pris un autre rendez-vous que la porte Maillot ou l'allée de la Muette. Puis il y avait comme une fatalité qui se posait ailleurs à Clignancourt ou à Saint-Mandé, les duels y étaient presque toujours malheureux. Il semblait au contraire que les nymphes du bois de Boulogne, dans la grande habitude qu'elles avaient de voir charger les pistolets ou tirer les épées, dérangeassent les balles d'un souffle, écartassent les épées d'un geste. Il y avait là, à la porte Maillot, un restaurateur qui avait fait fortune rien qu'avec les duels qui n'avaient pas lieu ou avec ceux qui avaient eu une heureuse issue. Hâtons-nous de dire que ce n'était point cette raison conservatrice qui avait fait choisir le bois de Boulogne aux témoins de M. de Marande et de M. Laurédan de Valgeneuse. De part et d'autre, ils avaient compris qu'ils allaient assister à un de ces duels où la terre boit le sang. Le matin du jour fixé pour le duel, le bois, au reste, présentait l'aspect le plus pittoresque. On était au mois de janvier, c'est-à-dire en plein hiver, et le bois était en harmonie parfaite avec la saison. Le ciel s'abaissait d'un blanc de neige, l'atmosphère était sèche et limpide, le sol étincelant de givre qui renvoyait à l'air les étincelles que le soleil lui jetait de la cime des arbres jusqu'au tronc. Les arbres laissaient tomber, avec une négligence gracieuse, de longs panaches scintillants comme des stalactites, ce qui donnait au bois l'aspect d'une immense décoration taillée dans une grotte de sel. Le premier arrivé fut Salvator, qui, faisant arrêter sa voiture dans la contre-allée, s'engagea dans le bois et alla reconnaître l'endroit désigné. Il était là depuis quelques minutes, quand il entendit tout à la fois un bruit de voix et de pas. Il se détourna et vit approcher M. de Marande, le général Pajol et le comte Herbel. Ils étaient suivis d'un domestique à la livrée de M. de Marande et qui portait un portefeuille sous le bras. Le banquier tenait un paquet de lettres arrivées, évidemment, au moment de son départ. Il les lisait tout en marchant, déchirant celles qui lui semblaient sans valeur, remettant les autres à son domestique avec des annotations qu'il y faisait au crayon sur le fond de son chapeau. En apercevant Salvator, il alla à lui et lui serra étroitement la main en disant « Ces messieurs ne sont pas encore arrivés ?»« Non, répondit Salvator, vous êtes en avance de 10 minutes. » « Ah, tant mieux, dit le banquier, j'avais si peur d'être en retard que, quelques diligences que j'ai fait faire à mes secrétaires, j'ai laissé 6 ou 7 ordonnances à l'hôtel en donnant l'ordre qu'on me les apportât aussitôt qu'elles seraient copiées. » Il regarda sa montre. « Ah, si ces messieurs n'arrivent qu'à 9 heures, comme mon chef de cabinet m'a promis qu'à 9 heures ces ordonnances seraient ici, j'aurai le temps de les signer pendant que vous mesurerez la distance et chargerez les armes. En attendant, n'est-ce pas, vous m'excuserez si je lis mes lettres. » « N'auriez-vous pas pu remettre les ordonnances à plus tard ? » demanda le général Herbel. « C'est impossible, le roi les attend ce matin, et vous savez, messieurs, que le roi n'est pas la patience incarnée. » « Faites, répondirent les deux généraux. « À propos, monsieur Salvator, dit monsieur de Marande, où croyez-vous que l'on se battra ?»« Là, dit Salvator. « Ah, je voudrais bien me mettre tout de suite à mon poste, dit monsieur de Marande, afin de ne pas avoir à me déranger. » « Vous pouvez vous mettre ici, dit Salvator, seulement c'est la mauvaise place. Les arbres que vous avez derrière vous peuvent aider au point de mire. »« Oh, pardieu, ça m'est égal, dit Monsieur de Marande, en allant se mettre à la place indiquée par Salvatore et en continuant à lire, de déchirer et d'annoter ses lettres. Les deux généraux se connaissaient en courage militaire, Salvatore se connaissait en courage civil, et cependant ils contemplèrent avec une muette admiration le sang-froid de cet homme qui, au moment d'accomplir un acte aussi solennel que celui de jouer sa vie, lisait tranquillement sa correspondance du matin. Sa figure, au reste, que l'on pouvait parfaitement voir, puisqu'il était nu-tête et que son chapeau lui servait de pupitre, sa figure n'était pas plus animée que s'il eût fait une addition. Sa main courait sur le papier, sans trouble, sans agitation, comme s'il eût été assis dans son fauteuil de cuir devant son bureau à côté de sa caisse. Et cette sérénité lui venait évidemment de ce qu'il ne croyait point à sa mort. En effet, c'est une force toute puissante que cette foi dans la destinée que la Providence donne aux grands ambitieux et aux fous, et qui les fait aveuglément, sans dévier de leur route, sans broncher aux pierres du chemin, marcher droit à leur but. Nous avons tous à peu près conscience de la tâche que nous avons à remplir ici-bas, et celui qui en a la conscience intime peut regarder en souriant la mort qui vient de son côté. Car, à coup sûr, la mort passera près de lui s'il n'a pas accompli son œuvre. C'est ce qui explique le calme des grands conquérants en face du danger. À 9 heures précises, les trois jeunes gens arrivèrent sur le terrain, Monsieur de Valgeneuse d'un air nonchalant, les deux témoins d'un air plus grave qu'on eût dû l'attendre de personnages si légers. En même temps, au bout de l'avenue, apparaissait un courrier qui arrivait à grande course de cheval. Il apportait les ordonnances qu'attendait Monsieur de Marande. Les jeunes gens jetèrent un regard sur le cavalier, mais reconnaissant que celui-ci avait affaire au banquier, ils n'y firent pas autrement attention. « Nous voici, dit le créole, en s'avançant vers les deux généraux, nous regrettons de vous avoir fait attendre. » « Vous n'avez point de regrets à exprimer, messieurs, vous n'êtes jamais en retard, » répondit assez sèchement le général Herbel qui se souvenait des impertinences de la veille. « En ce cas, nous sommes à vos ordres, » dit le second témoin de Monsieur de Valgeneuse. Celui-ci allait traverser le fourré où il se trouvait pour laisser les témoins s'entendre quand il aperçut Salvatore. Il frissonna involontairement en laissant siffler d'une manière fébrile le petit jonc à pomme de lapis-lazuli qu'il tenait à la main. « Ah, ah, vous ici, » fit-il dédaigneusement en regardant Salvatore. « Moi-même, » répondit gravement celui-ci. « Messieurs, » dit Loredan en se tournant vers ses témoins, « je ne sais si l'on a voulu nous faire insulte en amenant ce commissionnaire, mais à moins qu'il ne soit venu pour emporter le blessé sur ses crochets, je le récuse comme témoin. »« Je ne suis pas venu comme témoin, monsieur, » dit froidement Salvatore. « Comme amateur, alors ? Non, comme chirurgien et tout à votre service. » Monsieur de Valgeneuse se retourna d'un air de mépris et s'éloigna en haussant les épaules. Les quatre témoins disposèrent à quelques pas de Monsieur de Marande les boîtes de pistolets qu'ils tenaient à la main. Monsieur de Marande, placé à l'endroit où il devait essuyer le feu, avait le genou en terre et, avec une plume qu'il trempait dans un encrier que lui tenait le courrier, signait les ordonnances après les avoir lues hâtivement. En voyant ces deux hommes à ce moment suprême, l'un froidement occupé à continuer sa besogne journalière, l'autre fiévreux, agité, cherchant à dissimuler son trouble, il n'eût pas été difficile de dire lequel de ces deux hommes était le brave et le fort. Salvatore les examinait tous les deux, philosophant sur cette grave question de savoir quel est le plus sot du monde qui commande le duel ou de l'homme qui se soumet à ce commandement. Ainsi, pensait-il, la balle distraite de ce fat peut trancher la vie de ce fort. Voici un homme qui a fait de grands travaux dans sa sphère, qui a élucidé les questions financières les plus épineuses, un homme qui a été utile à son pays, enfin, et qui peut l'être longtemps encore. Voici, d'un autre côté, un cerveau vide, un cœur mauvais, non seulement inutile à ses semblables, mais encore malfaisant dans ses actes, dangereux par son exemple, un méchant, enfin. Voici ces deux hommes en présence, et tout à l'heure, peut-être la sottise aura tué l'intelligence, la faiblesse aura vaincu la force, Ahriman l'aura emporté sur Ormaz. Et nous sommes au XIXe siècle, et nous croyons encore au jugement de Dieu. » En ce moment, le général Herbel s'approcha de M. de Marande. « Monsieur, dit-il au banquier, ayez la bonté de vous préparer. »« Mais, dit M. de Marande, je suis tout prêt. » Et il continua de lire et de signer les ordonnances. « Vous ne m'entendez pas, reprit le général en souriant. Je vous dis de vous relever et de vous tenir debout. Monsieur de Valgenèse va-t-il faire feu ? Non, mais pour que la circulation s'établisse, pour que votre sang reprenne son équilibre, que votre posture a distrait. « Pas bas, fit M. de Marande en hochant la tête. « Demandez à notre chirurgien, dit le général en regardant Salvator. « Cela vaudrait mieux, répondit celui-ci en faisant un pas vers le banquier. « Croyez-vous donc que mon sang soit agité ? Reprit M. de Marande. « Parole d'honneur, si j'avais le temps, je vous donnerais mon pouls à tâter et vous verrez qu'il n'a pas deux pulsations de plus à la minute. » Il montra ce qui lui restait de ses ordonnances. « Mais, par malheur, ajouta-t-il, il faut que tous ces papiers soient lus et signés d'ici à 5 minutes. « C'est insensé ce que vous faites, dit le général. Le mouvement que vous donnez à votre main vous empêchera d'ajuster. « Bah, répondit avec insouciance M. de Marande en paraffant ses papiers, je ne crois pas qu'il me tue, général. Ni vous non plus, n'est-ce pas ? Faites donc charger les pistolets, veillez à ce qu'on n'oublie pas les balles, et mesurez les 40 pas. » Le général Herbel courba la tête sans répondre et rejoignit les témoins. Salvator regarda le banquier d'un air plein d'admiration. Il était convenu de se battre à 40 pas, chacun pouvant en faire 15 pour se rapprocher de son adversaire. Les pistolets, visités et chargés, on mesura les pas. Monsieur de Valgeneuse se trouvait sur la route du général qui les mesurait. « Pardon, monsieur, dit celui-ci à Loredan, soyez assez bon pour me laisser passer. » « Faites, monsieur, dit Loredan, en pirouettant sur les talons et en faisant sauter avec sa padine les étoiles de givre étincelantes à la cime des hautes herbes qu'il décapitait comme Tarquin. « Drôle, murmura le général. Et il continua de mesurer la distance. Les pas mesurés, on répéta les conventions à monsieur de Valgeneuse en lui remettant son pistolet. Au troisième coup, frappé dans la main, les adversaires pouvaient marcher l'un sur l'autre ou tirer à leur place, à leur fantaisie. « Très bien, messieurs, dit M. de Valgeneuse en jetant sa badine à terre, je suis tout prêt. « Quand vous voudrez, monsieur, dit le comte Herbel à M. de Marande en lui présentant le pistolet. « Mais quand M. de Valgeneuse voudra lui-même, dit celui-ci, en prenant le pistolet, en le passant sous son bras gauche et en se remettant à signer. « Mais voici. N'avons-nous pas le droit, M. Loredan et moi, de faire chacun 15 pas au-devant l'un de l'autre et de tirer à volonté ?»« Oui, répondit le général. « Eh bien, qu'il les fasse et qu'il tire, je tirerai après. Vous le voyez, je n'ai plus que 2 ordonnances à signer. » « Vous allez vous faire tuer comme un lièvre au gîte, dit le général. « Lui, répondit M. de Marande, en levant sur le comte 2 yeux où rayonnait la certitude du résultat. « Lui, répéta-t-il, je vous parie 100 louis, général, que la balle ne m'effleurera même pas. « Donc, quand vous voudrez, général. « C'est bien décidé. « Le roi attend, dit M. de Marande, en signant son avant-dernière ordonnance et en commençant de lire la dernière. « Il n'en démordra pas, murmura Salvator. « C'est un homme mort, dit le général Pajol. « Ah, il faut voir, fit le général Herbel, que la confiance du banquier commençait à gagner. Et ils démasquèrent M. de Marande, qui resta appuyé sur son genou, ayant à son côté son domestique qui lui tenait l'encrier. « À ça, dit M. de Valgeneuse, est-ce que notre adversaire compte se battre dans la posture de la Vénus accroupie ?»« Levez-vous, s'il vous plaît, monsieur, dirent à la fois les 2 témoins de Loredan. « Puisque vous le voulez absolument, messieurs, dit le banquier, et il se leva. « Donne-moi une plume d'encre, comte-toi, et range-toi à l'écart, dit M. de Marande à son domestique. » puis, se tournant vers Monsieur de Valgeneuse, « Je suis debout, monsieur, et tout à vos ordres, dit-il, mais sans cesser de lire l'ordonnance. « C'est une mystification, s'écria Monsieur de Valgeneuse, en faisant mine de jeter son pistolet. « Nullement, monsieur, répondit le général Herbel, nous allons donner le signal, marcher et tirer. »« Mais cela ne se fait pas, dit Lorédan. » « Vous voyez bien que si, » dit le second témoin de Monsieur de Marande, en montrant celui-ci qui, son pistolet sous le bras et sa plume entre les lèvres, achevait tranquillement de lire son ordonnance avant de la signer. « Ah, je vous préviens que toute cette comédie ne me touche pas le moins du monde, et que je vais tuer monsieur comme un chien, » dit Monsieur de Valgeneuse en grinçant les dents. « Je ne crois pas, monsieur, » répondit le comte. Lorédan abaissa les yeux sous le regard sinistre du général. « Eh bien, monsieur, dit Monsieur de Marande, sans lever la tête, quand vous voudrez. »« Donnez le signal, dit Lorédan. » Les témoins se regardèrent afin d'agir avec ensemble. On devait frapper les trois coups. Au premier, les adversaires armeraient le pistolet. Au second, ils se mettraient au port d'armes. Au troisième, ils marcheraient l'un sur l'autre. Au premier coup, M. de Marande passa en effet la main droite sous le bras gauche et arma le pistolet. Mais au second coup et au troisième, il ne fit d'autre mouvement que de prendre la plume à sa bouche et de s'apprêter à signer. Hum, toussa le général Pajol pour prévenir M. de Marande que le moment était arrivé et que son adversaire marchait sur lui. En ce moment, M. de Marande avait achevé de lire, de signer, de paraffer sa dernière ordonnance. Il la laissait tomber de la main gauche, tandis que de la droite il jetait la plume. Il releva la tête et, de ce mouvement, rejeta en arrière ses cheveux, qui reprirent sur son front le pli qu'ils avaient l'habitude de tenir. Sa figure était calme jusqu'à la sérénité. « Les 100 louis tiennent-ils, général ? » demanda-t-il en souriant et sans effacer la moindre partie de son corps. « Oui, dit le comte, et puissais-je les perdre ?» En ce moment, Lorédan avait atteint sa limite. Il fit feu. « Vous avez perdu, général, » fit Monsieur de Marande, et prenant son pistolet sous son bras, il tira sans paraître ajusté. Monsieur de Valgeneuse tourna sur lui-même et tomba la face contre terre. « Eh bien, dit le banquier en jetant son pistolet et en ramassant son ordonnance, je n'ai pas tout à fait perdu ma journée. À 9h15 du matin, j'ai gagné 100 louis et débarrassé la terre d'un drôle. » Pendant ce temps, Salvatore s'était précipité, suivi des deux jeunes gens au secours du blessé. Monsieur de Valgeneuse, les poings crispés, le visage livide, la bouche frangée d'une écume de sang, se roulait sur l'herbe, les regards égarés et à moitié éteints. Salvatore ouvrit l'habit, le gilet, déchira la chemise du blessé et découvrit la plaie. La balle était entrée au-dessous de la mamelle droite et, sans doute, en traversant la poitrine, avait été chercher le cœur. Aussi, après avoir regardé attentivement la blessure, Salvatore se releva-t-il sans prononcer une parole. « Il y a danger de mort ?» demanda Camille de Rosan. « Il y a plus que danger, il y a mort, » dit Salvatore. « Comment ? Pas d'espérance ?» demanda le second témoin. Salvatore jeta encore un regard sur le blessé et secoua négativement la tête. « Ainsi, vous affirmez, » demanda Camille, « que notre ami ne survivra pas à sa blessure ?» « Pas plus, monsieur, dit sévèrement Salvatore, que Colomban n'a survécu à sa douleur. » Camille tressaillit et fit un pas en arrière. Salvatore salua et rejoignit les deux généraux qui l'interrogèrent sur l'état du blessé. « Il n'a pas 10 minutes à vivre, » répondit Salvatore. « Vous ne pouvez rien pour lui ?» demandèrent les deux témoins. « Rien, absolument. » « Alors que Dieu ait pitié de lui, dit Monsieur de Marande, partons, car le roi attend. »